Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Plus de 100 000 filles et femmes sont touchées par les troubles alimentaires au Québec. Il y a quelques semaines, on a reçu la maison L'Éclaircie et on avait envie de continuer un petit peu à explorer ce phénomène des troubles alimentaires, mais surtout par l'optique, d'une histoire personnelle, mais aussi d'un projet qui est une initiative extraordinaire, qui est la Croisière des Alizés, qui nous permet en fait de reprendre un peu la barre de notre vie. C'est une belle métaphore que la cofondatrice et intervenante Ariane Magny va nous raconter. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Comment c'est venu cette idée-là de la voile? Parce que j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours aussi, mais pour l'idée là, de dire on va utiliser une croisière, on va utiliser le bateau pour pouvoir explorer un petit peu tout ça, puis offrir de l'aide et du soutien.
Oui, bien, en fait, la Croisière des Alizés a pour mission de soutenir le rétablissement de jeunes filles et femmes qui sont sur la voie du rétablissement d'un trouble alimentaire, notamment par l'intervention par la nature et l'aventure, où on vient utiliser vraiment des excursions en voilier pour venir soutenir leur rétablissement, justement. Et pourquoi le voilier? En fait, ça part vraiment d'une histoire un peu plus personnelle où, de mon côté, j'ai vécu les troubles alimentaires, mais j'ai aussi, en parallèle, grandi dans le monde du voilier. Donc, ma mère avait un voilier. Toute petite, j'allais déjà sur l'eau, apprendre un petit peu, m'initier à la voile. Mon frère est également instructeur de voile. Donc, vraiment, c'est quelque chose de familial. Puis, en bout de ligne, là, on est venu justement à cofonder ensemble, ma mère et moi, la Croisière des Alizés.
C'est aussi un beau récit, je trouve, d'un projet d'entrepreneuriat social avec ta mère.
Oui, tout à fait, exactement. Je pense que ça a été vraiment une idée là, qu'on a eue ensemble, puis en même temps, pour laquelle aussi on s'est inspiré. Il y a un projet français qui existait, qui n'existe plus actuellement, mais qui s'appelle la Croisière des Guerrières, où vraiment c'était un médecin qui a fondé la Croisière des Guerrières pour venir en aide justement aux jeunes filles qui ont des troubles alimentaires. Donc, on s'est inspiré aussi de ce projet français.
J'ai lu qu'il y avait aussi un autre projet français qui s'appelle Guérir en mer.
Oui, tout à fait. Guérir en mer, qui est un autre projet aussi, là, vraiment à visée psychosociale aussi, pour lequel, justement, on a pris contact. Ma mère était notamment allée à Marseille il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, pour aller au colloque Guérir en mer.
Quelle était la différence entre les deux projets?
La Croisière des Guerrières était beaucoup plus clientèle, là, troubles alimentaires, puis Guérir en mer, si je ne me trompe pas, c'est plus d'autres problématiques à visée psychosociale, mais aussi pour pour le personnel soignant.
Okay. Et donc, est-ce que toi, tu avais eu l'occasion de participer à ce projet-là avant ou quelqu'un d'autre, peut-être ta mère, d'y participer?
Non, pas du tout. Ça a vraiment été... On a su que ça existait. Puis étant donné que, bon, la voile n'était pas inconnue pour nous puisqu'on en faisait là, plus dans une optique de plaisir, ça a été là que l'inspiration est venue. Puis aussi de mon côté, parce que j'ai souffert d'un trouble alimentaire, un plus un fait deux. Ouais. Donc, voilà.
Qu'est-ce que ça a amené, les croisières, pour t'aider à composer avec le trouble alimentaire?
Ben, je pense que ça m'a aidée d'une certaine façon à rester connectée à mes intérêts, puis à même à des passions. Puis je pense que dans le trouble alimentaire, quand on est dans le creux de la maladie, ben on perd un peu tous nos repères, puis on perd aussi ce qui est important pour nous. Puis il y a comme l'obsession de la maladie qui vient en être plus omniprésente. Puis dans mon rétablissement, ben justement, je me suis reconnectée à nouveau à la voile. J'ai pu reprendre un petit peu, justement, le contrôle, si je peux dire ça comme ça, de, bon, c'est quoi mes intérêts, c'est qui Ariane sans le trouble alimentaire. Puis, je pense que ça a été à ce moment-là aussi que j'étais plus prête à m'engager dans le projet de fondation là, pour la croisière.
Donc, quand tu dis qui était Ariane sans le trouble alimentaire, est-ce que je comprends que ça devient une partie de ton identité à un certain moment?
Oui, tout à fait. Moi, je sais pas, tu sais, c'est sûr que je peux pas parler pour tout le monde. De mon côté, je l'ai effectivement vécu comme vraiment une prise plus identitaire. Et aussi, le trouble alimentaire C'est avec un pas de recul, je pense qu'il est venu aussi dans une crise identitaire où au début de l'adolescence, on cherche, on est pas, on sait pas trop on est qui. Puis le trouble alimentaire est venu de façon très sournoise et vient à un point où justement, comme j'ai dit, l'obsession devient tellement omniprésente qu'on vit que avec le trouble alimentaire et que pour le trouble alimentaire, si je peux dire ça comme ça. Donc, vient un temps où effectivement, là, j'étais plus vraiment je suis Ariane, j'étais je suis anorexique, c'est ce que je me disais beaucoup. Là.
Ouais. On a reçu la maison L'Éclaircie il y a quelques semaines qui nous parlait des différentes formes que ça peut prendre, des différents comportements, puis on voyait que ça devient malheureusement encore plus diversité, variée. On entendait entre autres l'orthorexie, donc l'obsession de bien manger. Et dans ton cas, c'était, est-ce qu'on peut dire que c'est la forme classique un peu des troubles alimentaires ou celle qu'on a vu émerger en premier?
De mon côté, ça a été l'anorexie. Puis j'ai également souffert là, de boulimie, donc avec des comportements compensatoires, là, quand on parle un peu plus de se faire vomir, l'entraînement excessif aussi après avoir mangé ou la restriction. Donc j'ai vécu les deux.
Est-ce que ça t'a pris du temps pour réaliser que c'est vraiment un problème?
Oui, ça m'a pris un certain temps parce que je pense que le côté pervers du trouble alimentaire qui fait en sorte qu'on ne se rend pas compte qu'on est malade, qu'on est malade, que c'est toxique. Parce que quand je dis le côté pervers, c'est le côté un peu qu'en tant que malade, on trouve positif. Donc, par exemple, la perte de poids, puis les commentaires des gens aussi autour de nous qui disent « Ah, ben t'as perdu du poids, c'est bien, c'est comme, d'une certaine façon, c'est valorisé. » Donc, t'sais, comment voir quelque chose de malsain comme ça, tandis qu'il y a des côtés peut-être un peu positifs qu'on voit entre guillemets. Puis, de mon côté, ça a été aussi une stratégie qui me permettait beaucoup de gérer mes émotions. Donc, quand on mange pas, j'étais un peu plus gelée, si on veut. Donc, il y avait comme pas d'émotions négatives qui venaient m'affecter. Donc, ça a pris un certain temps jusqu'à temps que je touche le fond, si on peut dire ça comme ça, puis que je sois hospitalisée.
On voit des fois dans certaines séries, dans Stat, entre autres, l'histoire qu'on raconte, celle de Delphine, où elle rencontre aussi une jeune femme qui est hospitalisée. Est-ce que tu t'es reconnue dans cette histoire-là?
Oui, il y a certains téléromans pour lesquels je peux me reconnaître. Je pense qu'il y a certains patterns, si je peux dire ça comme ça, où on peut se reconnaître de certaines façons. Donc justement le fait que ce soit caché aussi, je connais un peu l'émission Stat, là, donc si je prends Delphine qui elle le vit beaucoup en silence et qui en même temps arrive à fonctionner quand même à faire son emploi et tout. Donc oui, il y a eu certaines, surtout au début de l'âge adulte là, où j'arrivais à fonctionner tout en restant dans le silence, mais c'est ça, c'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin d'aide à ce moment-là.
Puis est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter l'hospitalisation? C'est toi qui l'as demandé ou c'est ta mère qui...
De mon côté, l'hospitalisation est arrivée à plusieurs reprises, autant à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Donc, les deux sont des contextes très différents là, en termes de soins ou en étant mineur, ben là, c'est plus les parents qui décident. Puis en étant majeur, ben là, on a le consentement aux soins qui est vraiment de notre propre chef. En même temps, c'est ça, c'était des contextes différents. Il y a eu des moments où j'ai eu plus de difficultés à l'accepter. Puis je pense que c'est la preuve aussi que la maladie est très forte à ce moment-là parce qu'on est prêt à tout pour ne pas être soigné, pour un peu rester dans le trouble alimentaire.
Puis on est conscient. Essaie de m'expliquer un peu comment ça se passe, le côté santé dans tout ça, on est conscient que le combat qu'on mène est pas bon pour notre santé, puis en même temps, on s'est tellement identifié à ce trouble-là que c'est difficile de passer par-dessus.
Oui, tout à fait. Je pense que si vous l'avez bien dit, c'est difficile de s'imaginer autrement. Donc, je me rappelle, si je parle encore plus personnellement, je me rappelle que je me disais, ben pourquoi je m'en sortirais? T'sais, si je m'en sors, ben j'ai plus rien. J'ai plus rien, ma vie tourne autour de ça, mes comportements sont contrôlés par le trouble alimentaire. Donc, jusqu'à un certain point, c'est insécurisant, même si, bon, je prenais de plus en plus conscience que c'était mauvais pour moi. Puis en même temps, ben, la, la, se rétablir d'un trouble alimentaire, c'est aussi de faire face à la souffrance qui vient avec de, bon, réapprendre à manger, mais ça, c'est le comportement. Mais ce qui est en dessous aussi, c'est un peu de, bon, tolérer que j'ai plus le moyen de contrôle que j'avais auparavant, qui était de me restreindre, perdre du poids et tout. Puis c'est aussi de tolérer, ben OK, ben mon coping, la façon de coper que j'ai pour gérer mes émotions, ben là, je dois trouver autre chose. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup de paradoxes, en fait.
Mm. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé comme autre chose, Ariane?
De paradoxe?
De mécanisme pour composer. Mm-hmm. Tu parlais de coping, ouais. Donc de composer avec l'émotion. Qu'est-ce que ça a été quoi le plan B là, qui est...
Oui, bonne question. Je pense qu'il y a des choses qui sont venues lentement, mais sûrement. Comme on dit, de mon côté, j'écris beaucoup. Donc, l'écriture a été un bel échappatoire pour moi. Le fait aussi de me recentrer, comme je disais tout à l'heure, à certains intérêts. Donc, la voile, le fait aussi d'aller étudier en psychologie à l'Université d'Ottawa. Mm. Donc, de découvrir un nouveau... De me laisser la chance d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie aussi. Là. Ouais. Mes parents habitent à Québec, donc c'était vraiment de partir tout de même un peu plus loin, d'une certaine distance. Donc, puis de me rendre compte aussi éventuellement que ben, le trouble alimentaire a plus à me faire perdre qu'à gagner. Mm. Puis je pense que ça, je l'ai compris vraiment, justement, je dirais à Ottawa. C'est pas, je dis pas que c'est le truc de partir à Ottawa, mais c'est juste pour dire que je me suis laissé la chance de m'ouvrir un peu de nouveaux horizons.
Oui. Ben c'est pernicieux dans beaucoup de situations, dans des troubles d'addiction aussi. Si on n'a jamais vécu ça, on le regarde de l'extérieur, parfois on comprend pas. Mais j'imagine que le rôle des neurosciences... La manière dont notre cerveau comprend au niveau de la santé mentale, ça c'est difficile à comprendre pour quelqu'un de l'externe, mais comment tu pourrais l'expliquer au niveau de notre santé mentale? Qu'est-ce qui fait là, qu'on n'arrive pas à le voir de l'extérieur?
Bonne question. C'est sûr qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'éléments qui sont encore à ce jour un peu inconnus par rapport aux troubles alimentaires, mais je pense que vous avez dit le bon mot, là, addiction, c'est vraiment, souvent, c'est les troubles alimentaires sont souvent comparés aux problèmes d'addiction, puis je pense que jusqu'à un certain point, ben de mon côté, comment ça se manifestait, c'est vraiment une petite voix, je l'appelle encore la petite voix, là, la petite voix du trouble alimentaire qui devenait un petit peu omniprésente, qui contrôlait les comportements, puis bon, qu'est-ce qui fait que ça se voyait pas? Ben en fait, je pense que ça dépend aussi de la personne, de si elle ose demander de l'aide ou pas. Puis je pense que c'est important aussi de véhiculer le message que les troubles alimentaires, justement, ça se voit pas toujours physiquement. Quelqu'un peut souffrir, là, justement, avec un poids dit « normal », entre guillemets. Là.
Comment on fait si on est une personne, un proche, un ami, un collègue pour identifier certains comportements qui pourraient... surtout, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Qu'est-ce qui peut être aidant?
Moi, je pense qu'en parler est la solution parce que la personne peut se sentir... le trouble alimentaire fait en sorte que souvent il y a beaucoup d'isolement qui est vécu, donc en parler, tendre une main peut être un premier pas que la personne peut décider de prendre ou pas, même si le proche n'ouvre pas nécessairement le sujet ou accepte pas la main tendue tout de suite, je pense que c'est important de quand même réitérer après, d'essayer d'être patient surtout, puis de comprendre aussi que le trouble alimentaire, il est pas linéaire, il peut avoir des victoires vers le rétablissement, il peut aussi avoir des petites rechutes, puis en même temps, c'est ça, pour un proche d'être patient, de parler, puis de comprendre aussi que le trouble alimentaire, souvent, j'aime bien l'image du iceberg. Le iceberg, c'est ce qu'on voit justement au niveau des comportements. Donc, est-ce que peut-être la personne va aux toilettes systématiquement après avoir mangé? Est-ce qu'elle se regarde beaucoup dans le miroir? Est-ce qu'il y a des restrictions et tout? Puis tout ça, ces comportements-là peuvent être perceptibles. Puis en même temps, bien, il y a une raison, la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. Puis souvent, bien, c'est de nature un peu plus émotionnelle, sociale. J'aime beaucoup la pensée du biopsychosocial.
On va faire une courte pause, Ariane, mais ensuite, on va essayer de voir un peu quelle est la philosophie là, qui vous emmène dans la croisière des Alizés. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait durant la croisière? Puis c'est quoi l'expérience qui est vécue par les jeunes femmes qui participent aux croisières?
Thank you.
De retour au Héros Anonyme avec Ariane Magnier, cofondatrice et intervenante à la croisière des Alizés. Merci Ariane d'abord de nous avoir fait part de façon ouverte de ton parcours. J'imagine que le fait justement d'avoir vécu tout ce que tu as vécu, ça t'outille vraiment bien maintenant comme intervenante pour être capable de soutenir les jeunes femmes qui participent aux croisières.
Oui, en effet, le fait de l'avoir vécu me permet d'avoir, c'est sûr, un pied un peu plus dans la compréhension de, bon, ben comment se passe le rétablissement, comment se passe la maladie aussi. En même temps, c'est sûr que, bon, je me considère pas nécessairement une experte en troubles alimentaires. En même temps, ben j'ai mon bac en psycho qui me permet aussi d'avoir beaucoup de notions là, un peu plus théoriques, puis je fais présentement une maîtrise en santé publique. Donc, mon vécu, mon parcours académique et aussi mon parcours professionnel là, me permet d'être bien outillée pour avoir mon rôle dans la croisière.
Et comment ça se passe concrètement, la croisière des Alizés? Puis ça fait combien de temps là, que ça... Combien de voyages vous avez fait? Combien de personnes ça a aidé?
Oui, la croisière des Alizés, en fait, existe depuis 2020. C'est en 2021 qu'on est parti sur l'eau pour la première fois dans le cadre d'un projet pilote. C'est un projet pilote qu'on a fait en collaboration avec la Maison de l'Éclaircie, un organisme de Québec qui vient en aide aux personnes justement qui souffrent de troubles alimentaires. Puis, en 2022, on a élargi un peu plus nos activités. Donc, on est resté partenaire avec la Maison de l'Éclaircie, puis encore à ce jour aussi, on est avec eux. Et quand je dis qu'on a élargi un peu plus nos activités, c'est qu'on a offert là, en 2022, à titre d'exemple, là, une excursion en voilier de 7 jours à bord de l'Écomaris, qui est un bateau-école qui navigue à travers le Québec, puis on l'a fait sur la Côte-Nord, donc avec des filles là, un peu des quatre coins du Québec, puis... également, l'an passé, on fait notre port d'attache avec la Maison Éclaircie et nos autres excursions et vraiment dans Charlevoix à la Malbaie. Donc, l'an passé, on a offert là, une excursion avec des filles encore des quatre coins du Québec. Donc, le recrutement est vraiment ouvert à tous. Et aussi, on a offert là, deux excursions avec la Maison Éclaircie. Donc, quand je dis avec la Maison Éclaircie, c'est il y a une intervenante de la Maison Éclaircie et il y a une intervenante de la Croisière des Alizés. Et les participantes qui sont ciblées par l'excursion en voilier sont la clientèle de la Maison Éclaircie.
Donc, c'est combien de personnes là, qui sont sur le bateau?
C'est entre 5 et 6 filles qui souffrent de troubles alimentaires qui sont sur le voilier, plus deux intervenantes et une skipper de voile. Donc, même si de mon côté, je fais de la voile, je ne m'improvise pas capitaine de voilier. Donc, on laisse ça entre les mains d'une experte. Puis nous, en même temps, ça nous permet d'intervenir là, comme on le fait.
Mais là, on parle de 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait au cours de ces 3 jours?
Oui, en fait, durant ces 3 jours-là, on vient vraiment faire une initiation à la voile. Donc, pendant les 3 jours, on passe sur l'eau, puis les filles ont l'occasion là, vraiment de s'initier aux rudiments de la voile, aux différentes manœuvres. Puis, à travers ça, il y a également des activités, par exemple, de team building, des activités brise-glace un petit peu, vraiment pour venir forger la cohésion de groupe. Puis, il y a des discussions. Les discussions permettent vraiment de faciliter un peu le transfert des apprentissages qu'on souhaite que les filles puissent avoir dans leur vie quotidienne ensuite. Donc, on veut que ce qui est vécu durant ces 3 jours-là ne soit pas le temps du vendredi au dimanche, puis après, il n'y a plus rien qui reste. On veut vraiment, il y a des objectifs qui sont spécifiques aux excursions. Donc, si je prends par exemple le fait de pouvoir vivre une expérience positive dans un contexte qui est favorable justement aux réussites, donc le fait que les filles sortent de leur zone de confort, qu'elles puissent vivre certaines réussites par la suite, qu'elles puissent être capables de s'identifier des forces personnelles, c'est tous des outils qui peuvent justement venir soutenir la personne dans son trouble alimentaire, dans le rétablissement, pardon. Oui.
J'imagine que ça s'accompagne bon, avec des pensées obsessives qui reviennent constamment. Donc, est-ce que c'est pas un truc justement de faire autre chose et le fait d'être occupé à vraiment quelque chose? Bon, sur un bateau, on a certaines manœuvres précises à faire pour être sûr qu'on garde le cap, là. De quelle manière le fait d'être occupé à faire autre chose nous aide?
Bien, c'est sûr que le fait d'être occupé à faire autre chose permet vraiment de se recentrer dans le moment présent. Donc, ça peut être justement une stratégie qu'on veut faire, pratiquer, si on veut, aux filles, de pouvoir vraiment là, se concentrer sur le moment présent, puis de qu'elles puissent par la suite aussi se dire, OK, bien, comment j'ai fait à ce moment-là pour me recentrer durant le moment présent? OK, j'ai peut-être pas besoin d'un voilier pour réussir à faire ça. Je peux peut-être aller marcher dehors, je peux peut-être appeler une amie. T'sais. Tous des outils, en fait, qui vont permettre de pouvoir un peu dévier des pensées obsessives du trouble alimentaire. C'est sûr que les participantes, on les veut vraiment dans une optique où elles sont motivées à participer à ce projet-là. C'est une expérience qui est volontaire. C'est vraiment une expérience qui, pour qui la personne, là, on souhaite qu'elle soit motivée puis qu'elle soit rendue à cette étape-là aussi. Donc, tout à l'heure, je mentionnais justement que dans le creux de la maladie, ça peut être très difficile de vouloir sortir puis de vouloir découvrir de nouveaux horizons. Donc, c'est sûr que nous, on veut que les participantes en tirent le maximum de bénéfices. Donc, la motivation vient aussi avec ce projet.
Quelle sorte de parallèle on peut faire ou de métaphore, je dirais, entre la voile et toutes les vagues et les soubresauts et la houle que vous avez eue à vivre, là, toutes les femmes qui participent, qui ont vécu des troubles alimentaires?
Oui, bien, si j'ai un exemple en tête où il y a déjà une participante qui m'a dit, bien, moi, aujourd'hui, j'ai pris le contrôle du navire, puis contrairement à quand je prenais le contrôle du trouble alimentaire ou quand le trouble alimentaire ben, me faisait croire justement que j'avais le contrôle sur ma vie, bien là, j'ai vu que je pouvais vraiment avoir le contrôle. J'ai fait lever la grand voile, puis j'ai tenu la barre aussi. Donc ça, je trouve que c'est un beau parallèle à faire, mais aussi le parallèle de tout ce qui est lâcher prise. T'sais. En voilier, on est vraiment tributaire de la météo, des vents. Donc s'il n'y a pas de vent, ben, on n'avance pas, mais c'est correct aussi. C'est correct. Ou si on n'avance pas, ben est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus le vent, aller faire une manœuvre X, Y, Z pour pouvoir s'adapter? Donc, tout ce qui est la question d'adaptation à la météo, je trouve que c'est aussi un beau parallèle qui est soulevé également.
Comment les filles peuvent s'en inspirer après la croisière?
Ben, c'est sûr que au niveau de tous ces parallèles là justement, c'est sûr que c'est propre à chacune aussi, mais je pense à une participante qui nous avait réécrit par la suite et qui nous avait dit je me suis découvert un intérêt pour le paddleboard par exemple. Donc vraiment là, c'est sûr que c'est peut-être un hasard que ce soit resté dans le plan un peu nautique, mais ça a fait en sorte que la fille la participante elle a décidé d'aller chercher un peu plus ses intérêts. Donc on voit ça aussi, de vouloir un peu plus se connecter à la nature. Il y en a aussi qu'elles ont vu qu'elles avaient la facilité d'être en groupe, donc de renouer avec d'anciennes amitiés aussi, c'est quelque chose qu'on a vu. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de plans là, qu'on vient chercher au niveau psychologique et social. Là.
Parce qu'on disait tout à l'heure que le trouble alimentaire pouvait nous isoler. Mm-hmm. Donc là, le fait de vivre avec des gens qui vivent la même chose que nous, ça doit être... extrêmement, ça doit faire du bien.
Oui, tout à fait. Puis c'est quelque chose aussi que un de nos objectifs, justement, c'est de créer des relations satisfaisantes, puis que les filles s'engagent aussi dans ce processus-là de groupe. Je pense que ça parle beaucoup de leur désir de vouloir être avec des filles qui ont peut-être un vécu similaire, puis de pouvoir partager dans un contexte, puis un encadrement qui est sécuritaire et qui est sain.
Je suis curieuse aussi, Ariane, de voir un peu... qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec ta mère de développer ce projet?
Bien, c'est sûr que on est proches dans le sens où on collabore ensemble, mais je pense que aussi ça notre relation fait en sorte que elle est plus au niveau du côté gestion de projet. Moi, j'ai mon rôle un petit peu plus au niveau clinique, donc on est complémentaires à ce niveau-là. Puis c'est sûr que comme dans tout, il faut essayer de distinguer le travail du personnel. Donc, on s'est venu ajouter un plus à notre relation.
Ça a dû pour elle être... faire du bien de sentir là, que tu t'investissais dans quelque chose sur lequel t'avais le contrôle, mais qui était bénéfique pour toi puis pour d'autres aussi.
Oui, puis c'est effectivement quelque chose qu'elle m'a déjà dit, que c'est pour elle, la croisière des Alizés, c'est une grande fierté aussi de pouvoir faire ça de pouvoir faire ça avec moi. Puis je pense que le fait que ça, ce soit un projet familial, mon père aussi nous aide.
Ah ouais.
Donc, je pense que ça permet de faire une suite à l'histoire qui était peut-être un peu plus sombre dans mon adolescence.
Et j'entends là que tu es à la maîtrise en santé publique.
Oui, c'est exact. Oui.
Est-ce que ça t'intéresse peut-être de regarder cette situation-là dans un contexte plus large au niveau du système de santé?
C'est une bonne question. C'est sûr que ma maîtrise n'est pas axée là-dessus pour le moment, mais elle est axée sur les bienfaits de la nature. Donc, c'est un peu plus lié à ça. C'est sûr que je pense que la santé publique peut avoir un certain rôle dans la sensibilisation de l'image corporelle et toutes les problématiques liées au poids également.
Je pense que les Japonais, pour la forêt, ont un terme même, Shirin.
Shirinyuku, oui. Exactement. Oui.
J'ai même lu là, qu'il y avait certains médecins qui prescrivaient des balades en nature.
Oui, exactement. Il y a le Prescrit Nature au Canada est vraiment de la prescription de bains de forêt parce qu'on voit que la nature a de multiples bienfaits, autant physiques que psychologiques.
Peut-être en terminant, Ariane, vous avez une ambassadrice qui vous aide aussi à vous faire connaître?
Oui, Lisanne Richard, une plongeuse de haut vol qui a participé à au lancement de la croisière des Alizés, puis qui a participé aussi à certains événements bénéfices, qui est ambassadrice pour la cause parce qu'elle a vraiment à cœur la mission de la croisière.
On parle de finances. De quelle manière les activités sont organisées, sont financées?
La Croisière des Alizés n'a pas de financement récurrent. Depuis ses débuts, on fonctionne vraiment par sociofinancement. Donc, en 2021, on est allé chercher 30 000 $ grâce à du sociofinancement. Puis en 2023, ça a été une belle somme de 50 000 $ qui nous a permis de justement un peu plus déployer nos activités pour 2024 puis de les bonifier. En même temps, c'est sûr que justement, on souhaite éventuellement avoir davantage de subventions. On souhaite pouvoir s'enregistrer aussi en tant qu'organisme de bienfaisance. Puis, il est toujours possible de faire un don via notre site web officiel.
Qui est?
La croisière croisièredesalizés.com.
Excellent. Merci beaucoup, Ariane,
Merci.
D'avoir été parmi nous. Et on vous souhaite une belle traversée et de toujours garder la barre. Merci d'avoir su faire une œuvre d'art avec ce que vous avez vécu. Quelque chose d'utile pour la société.
Merci beaucoup.
Et c'est ainsi que se termine cet épisode des Héros anonymes. Merci à Catherine Bourderon à la recherche, Pearson Phineus en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Je vous rappelle qu'on peut nous écouter sur le câble, sur Internet à canalem.vuesetvoix.com, sur les ondes de notre partenaire CKVL et sur de nombreuses plateformes de balado-diffusion. C'était Chantal Doré à la barre des Héros anonymes. N'hésitez pas, si vous avez des personnes et des organismes extraordinaires que vous connaissez, faites-nous signe, on veut les recevoir à notre antenne. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.